Chain one, Apple, take one.
On parle beaucoup en ce moment des préparatifs du Festival international du film à Cannes.
J'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour. Et j'ai gagné la Palme d'Or, qu'est-ce que c'est?
Bonjour à tous. Duo de femmes et duo d'hommes, aujourd'hui jusqu'à 13h30. Ces deux-là ne se quittent jamais. Chef de file d'un cinéma humaniste, les frères Dardenne sont de retour en compétition et en salle aujourd'hui avec le jeune Ahmed, nouveau portrait d'une jeunesse égarée. Il raconte cette fois l'endoctrinement d'un garçon de 13 ans par l'imam du quartier et sa dérive, un film porté par l'actualité. Palme d'or en 99 pour Rosetta et en 2005 pour l'enfant Luc et Jean-Pierre Dardenne. Nous rejoindrons à partir de 12h55 pour cette troisième et dernière grande table ronde des critiques que nous retrouverons également à la fin de cette deuxième partie. Mais d'abord, aux origines du désir et de la création, où naît l'inspiration? Le quatrième long de la Française Céline Sciamma est en compétition pour une sortie annoncée à la rentrée, Portrait de la jeune fille en feu, avec Adèle Haenel et Noémie Merlant. On vous en parle dans quelques instants, ce sera après le journal de Cannes.
Mon cher directeur, cher vieux camarade.
Ladies and gentlemen, good evening.
Encore une fois, merci.
La grande table.
De m'inviter à monter vos augustes 24 marches.
Olivia Gesbert.
Car chaque jour jusqu'à vendredi, on ouvre cette grande table cannoise avec le journal de Cannes d'Antoine Guillot, chose vue et entendue. Antoine Guillot, bonjour.
Bonjour Olivia.
Vous nous ramenez 80 ans en arrière aujourd'hui.
Précisément.
Let the joyous news be spread, the wicked old witch at last is dead.
Réjouissons-nous si on était dans un film de Quentin Tarantino, genre Inglourious Bastards, la sorcière, pour ne pas dire la bête, serait morte avant de nuire, Hitler aurait été éliminé par de gentils salopards, la Deuxième Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu, et on fêterait cette année les 80 ans du Festival de Cannes et non sa 72e édition. C'est ce que fait en ce moment même, sur la plage du Centre National de la Cinématographie à Cannes, une conférence de presse qui annonce la recréation cet automne à Orléans d'un événement mort-né. Alors petit retour en arrière, on est en septembre 1938 à la Mostra de Venise, le film de Leni Riefenstahl à la gloire des Jeux Olympiques de Berlin de 1936, fleuron de l'esthétique nazie, Olympia les dieux du stade remporte la coupe Mussolini comme on l'appelait à l'époque, face à cette manifestation devenue le fer de lance du soft power fasciste comme on dirait aujourd'hui, un Français a une idée, il est ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, il chapeaute donc à ce titre le cinéma, il s'appelle Jean Zé. Et si le monde libre crée sa propre vitrine, histoire face aux dictatures et à leurs agressions, d'utiliser les films pour faire de la diplomatie culturelle, bonne idée. Il est soutenu en cela par les producteurs américains réunis dans la Motion Picture Association, très désireux de trouver une porte d'entrée en Europe. Un accord industriel est signé avec la France en août 1939. C'est le prototype des fameux accords Bloom-Burns qui permettront aux films américains de déferler sur les écrans français après-guerre. Et donc, décision est prise de créer un festival dont l'Allemagne et l'Italie seraient exclus, mais où seraient invités les États-Unis, donc la France, bien sûr, mais aussi la Grande-Bretagne, l'URSS, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Chaque pays choisit les films qu'il veut envoyer. Il n'y a à l'époque pas encore de sélectionneur à la Thierry Frémaux. Diplomatie culturelle, on vous dit. L'Amérique, qui se taille la part du lion avec 8 films sur les 30 qui doivent être présentés, envoie le meilleur de la production hollywoodienne du moment. Une comédie musicale en couleur, des films d'action ou d'aventures historiques, une fable politique, des comédies de mœurs et puis des mélodrames aussi. Et la liste fait rêver de ce que les festivaliers cannois de 1939 auraient dû découvrir sur la croisette. Seuls les anges ont des ailes de Ward Oaks, Mr. Smith au Sénat de Frank Capra, le magicien d'Oz de Victor Fleming, dont on vient d'entendre un extrait, mais encore Elle et lui de Léo McCarré et j'en passe. Les Anglais ont prévu entre autres La Taverne de la Jamaïque d'Alfred Hitchcock, les Pays-Bas Petit Gamin d'un certain Detlef Zirk en route pour Hollywood où il deviendra Douglas Sirk, et côté français les nouveaux films de Christian Jacques, Jacques Feder, Julien Duvivier ou Jacques de Baron Celi. L'URSS a son contingent, mais elle retire au dernier moment l'Alexandre Nevsky d'Eisenstein, parce que la déconfiture des chevaliers teutoniques face aux armées impériales du Tsar font mauvais genre après la signature du pacte germano-soviétique. On doit même voir un film anti-hitlérien, La Peste Blanche, venu d'un pays qui a cessé d'exister 5 mois plus tôt, la Tchécoslovaquie. Bref, tout va bien. Les stars Norma Shearer et Cary Grant, Michel Morgan et Pierre Freinet sont en route. Le président d'honneur Louis Lumière s'apprête à ouvrir les festivités et... Eh bien, le jour de l'inauguration, le 1er septembre 1939, comme on sait, l'Allemagne envahit la Pologne et tout est annulé. C'est donc à Orléans, la ville de Janzé, que du 12 au 17 novembre 2019, on va enfin vivre cette première édition, tuée dans l'œuf, avec tapis rouge, montée des marches, cérémonie d'ouverture, un palmarès même, délivré par un jury présidé par Amos Gitaille, et encore des critiques, un bal, des vedettes. On y verra, sauf surprise de dernière minute, 25 des 30 films prévus. La recherche dans les cinémathèques et les vieux greniers a été assez compliquée. En attendant, on vous recommande un livre passionnant qui raconte toute cette histoire. Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu, de l'historien Olivier Loub. C'est chez Armand Collin, histoire avec Judy Garland de repasser de l'autre côté de l'arc-en-ciel.
And a lullaby somewhere over the rainbow, skies are blue.
Amos Gitaille, qui préside cette année ici à Cannes le jury international de la citoyenneté. La grande table qui plie bagage cet après-midi et rentre donc tout à l'heure à Paris. Mais vous allez, Antoine Guillot, continuer à suivre pour nous les festivités cannoises chaque jour jusqu'à vendredi dans votre journal de Cannes. Et pour les auditeurs de Plan Large, votre émission samedi, où vous recevrez, où vous parlerez notamment d'un autre film français attendu. Je dis ça parce que nous, on va recevoir dans quelques instants Céline Sciamma avec Adèle Haenel. Ce sera le film de Justine Triet, Sibylle.
Sibylle et Justine Triet devraient venir dans Plan Large avec Virginie Efira pour parler de ce film qui réunit à nouveau le couple très très productif de Justine Triet et de Virginie Efira. Alors, on n'a pas le droit d'en parler parce que vous savez, il y a des embargos à Cannes, hein, donc
voilà,
on en parlera
le film est présenté vendredi
une fois
soir.
Que le film aura été projeté, mais on peut dire qu'il est bien quand même. Et puis, on devrait recevoir aussi Marco Bellocchio pour son nouveau film et peut-être probablement Elia Souleymane.
Merci beaucoup Antoine Guillot. Le journal de Cannes, le vôtre, est à retrouver sur franceculture.fr. Midi 8 sur France Culture et Cannes, cette année, l'année des retrouvailles. Après celle de Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée pour la suite d'Un homme et une femme, après celle du duo espagnol Pedro Almodovar et Antonio Banderas pour Douleur et gloire, celle de Céline Sciamma et Adèle Haenel, vue dans La Polonide de Bertrand Bonello ou l'an passé encore dans En liberté de Pierre Salvadori. Elles avaient fait leur début ensemble en 2007 avec Naissance des pieuvres. Elles se retrouvent cette année en compétition, l'une derrière la caméra, l'autre devant, dans Portrait de la jeune fille en feu. Premier film d'époque pour la réalisatrice de Tomboy et de Bande de filles. Premières amours en robe longue, puisque le film met en scène la rencontre entre une jeune femme, Héloïse, sortie du couvent pour être mariée, et une peintre, Marianne, venue réaliser son portrait, comme le veut la coutume, pour acter son destin d'épouse. Sauf que la future mariée refuse de poser. Introduite comme dame de compagnie, la peintre va donc l'observer le jour, la dessiner le soir, et l'amitié va laisser peu à peu place au désir. Le désir aux caresses, un huis clos amoureux et féminin, voire féministe, pour l'actrice et la réalisatrice, membre du collectif 50-50 pour la parité au cinéma, initiatrice aussi de la montée des marches des 82 femmes pour l'égalité l'an passé, une histoire au 18e pour un film du 2018e siècle, comme le dit Céline Sciamma dans Télérama Rencontre.
L'homme intéressé par ma fille est Mélanie. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît.
Vous partirez.
Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Avec une idée simple, en vérité. Elle a refusé d'épouser. Il n'a jamais vu son visage.
Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte?
Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle s'est réjouie.
Bonjour Céline Sciamma.
Bonjour.
Et bonjour Adèle Haenel.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être avec nous. Une île sur laquelle auraient échoué que des femmes, ou vivraient que des femmes. C'est un peu le rêve absolu, non?
Bah, c'est le début de Wonder Woman.
Mais c'est aussi un peu le début de Portrait de la jeune fille en feu.
Oui. Mais c'est votre rêve? Ou c'est le rêve du film? Moi, j'ai construit un monde imaginaire. Mais donc, les mondes imaginaires, c'est pas forcément ce qu'on met dedans, c'est aussi ce qu'on n'y met pas.
Il y a une histoire, une mythologie qui vous a inspiré pour imaginer ce monde-là?
Il y a plusieurs choses, effectivement. Il y a une histoire du cinéma, parce que on peut considérer que le film d'époque ou en costume, comme on dit, est une forme de genre et dans lequel on pourrait inclure pêle-mêle Carole, Titanic, la son de piano. Mais je pourrais aussi parler de Jeanne Dielman, de Chantal Akerman. Je pourrais. Il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a un peu de Bergman aussi. Il y a un peu de Persona dans le film. Mais bon, moi, je suis pas tellement une cinéaste de référence parce que sur le moment, il y avait surtout l'envie de faire un film d'amour et de création avec deux régimes. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est que tomber amoureux pas à pas, être dans cette mise en scène du délai, de la frustration, de la chronique d'un amour qui naît. Et puis être dans l'amplitude d'un amour perdu, d'un amour dont on se souvient. Donc pour moi, c'est des femmes adultes qui sont en pleine possession d'ailleurs de leurs moyens, de leur cerveau, de leur désir, de leur corps. C'est pas du tout des adolescentes.
Mais qui le découvrent aussi, ce désir, non ?
Je sais pas si elles découvrent. C'est un film. Bon, c'est un film de premier amour, si on considère que les grands amours sont toujours des premiers. J'avais vraiment l'envie de chroniquer justement un amour adulte, c'est-à-dire qui se fonde aussi sur. Des échanges, des polémiques, des échanges intellectuels aussi, quoi. Qu'est-ce qui construit un amour et la parole, l'admiration, la collaboration.
Et le regard.
Et ça, c'est adulte, je crois, très adulte même.
C'est un désir qui naît, qui se nourrit d'abord par le regard. Adèle Haenel, est-ce que vous diriez, vous, que la relation du peintre avec son modèle, comme on le voit dans le film, se rapproche de celle du cinéaste avec les comédiens ou comédiennes? Est-ce qu'au cinéma, le processus de création, comme ça, est partagé entre des échanges de regards, ou est-ce qu'il est beaucoup plus unilatéral? C'est toujours le réalisateur qui regarde le comédien?
Le cinéma parle du cinéma souvent, dans le cinéma français, en parlant de l'édition. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que bon, bah, les livres, on montre quelqu'un qui écrit derrière une machine à écrire, des bureaux, les livres, on fait des couvertures, on fait des fausses couvertures Gallimard, et tout ça a l'air d'être réel. Nous, on a choisi la peinture, c'est parce qu'on voulait parler de travail, et donc de montrer aussi les couches du travail. Et le film est joueur avec ça. Hein. Mm-hmm. C'est pas non plus un... En somme, hein. Il est joueur avec ses situations, mm-hmm. avec ses opportunités. Il essaye de... C'est un peu une espèce de Rubik's Cube qui essaye de moissonner comme ça, de rendre tous les possibles qui existent dans le fait de regarder quelqu'un et d'être regardé. C'est l'endroit où c'est aussi des opportunités de fiction, et puis c'est aussi un discours politique, parce que il y a quand même le projet de faire un sort à la question de la muse, envisagée traditionnellement, c'est-à-dire une femme immobile, inspiratrice, amante. Il y a toujours une espèce de vision comme ça de cette femme immobile qui serait totalement inspirante uniquement par son essence, sa beauté. Et en réalité, on voit bien déjà dans la façon dont les histoires sont re-racontées, ou racontées pour la première fois, qu'il s'agit d'émulation, d'admiration et de collaboration perpétuelle, quoi. Et ça, le film le raconte, et il est joueur sur cette question et sur la question, et il y mêle le dialogue amoureux.
Il y avait des femmes peintres à cette époque,
énormément.
Au 18e.
Énormément. J'ai choisi cette époque-là précisément parce qu'il y avait à ce moment-là une ébullition, une vraie scène artistique de non pas de femmes peintres, mais de peintres-femmes, et qui existaient par dizaines et dizaines et dizaines, qui faisaient des centaines, qui existaient en France, qui existaient aussi dans toute l'Europe.
Et qui étaient exposées, peu reconnues.
Elles étaient extrêmement exposées, extrêmement reconnues. Elles n'avaient pas tout à fait, parfois politiquement, on ne les autorisait pas à exposer dans certains endroits ou à avoir toute l'éducation nécessaire pour leur rayonnement. Il y avait certains types de peintures qui pouvaient leur être interdites, mais en réalité, c'était un moment extrêmement florissant. Elles étaient reconnues, elles avaient des carrières, il y avait une critique d'art féminine aussi, il y avait des revendications féministes, il y avait tout ce qui est toujours là. Et ça a été largement complètement couvercle, les retombées. La femme du 19e siècle, la femme bourgeoise, a été inventée, mais il y avait une grande mode du portrait qui a favorisé l'essor des femmes peintres. Et donc c'est pour ça que j'ai précisément choisi cette deuxième moitié du 18e siècle. Mais il y avait tout un mouvement d'ébullition très fort, hein, et notamment des peintres. Hommes étaient engagés dans ces mouvements, ouvraient leurs ateliers aux femmes. David, notamment, était assez décisif dans l'éducation artistique des jeunes femmes.
Vous m'autorisez à être curieuse? Comment est votre jeune maîtresse?
Je ne sais pas trop, je la connais peu.
Mais vous êtes ici depuis 3 ans.
Elle n'est là que depuis quelques semaines.
Où était-elle?
Chez les bénédictines.
Elle a quitté les ordres?
On l'a sortie du couvent. Sa sœur est morte.
C'est elle qui devait se marier. La maladie l'a emportée.
Non. Vous pensez que vous allez y arriver?
Arriver à quoi?
À la peindre.
Ces deux femmes vont se créer une bulle sur cette île. Elles vont avoir un moment à elles. Il y a deux mots très importants dans le film, Adèle Haenel, c'est liberté et égalité. Comment est-ce qu'elles vont réussir à s'émanciper de toutes les conventions, des codes, de ce qu'on leur impose? Par quoi ça passe?
En fait, je crois que le film, il est politique au sens où il est suspendu. C'est-à-dire qu'en fait, tout en montrant une sorte de vie possible, en fait, simplement juste hors de l'ordre du monde qui nous limite en tant que femmes, hein, comme l'a dit Céline, en fait, c'est un temps suspendu. C'est-à-dire, on sait que ça pourra pas durer tout le temps, mais imaginons que ce temps, qu'il y ait juste une bulle. Et en fait, cette bulle est politique au sens où elle montre à la fois le possible, à la fois la beauté du possible, à la fois la joie de ça, et à la fois son impossibilité dans... au-delà d'un suspens. C'est juste un moment de suspens où c'est possible. Et du coup, c'est pour moi en ça que le film est politique. Et en fait, si vous voulez, ça passe pas juste par... évidemment, ça passe par l'échange intellectuel, mais ça passe juste par le souffle de la vie, quoi. Mais ce souffle-là, il est en fait au-delà d'un moment de suspens, et il est rattrapé par l'ordre du monde. C'est pour ça que le film est politique. Et presque, il y a quelque chose de même presque drôle là-dedans, en fait. Parce qu'on se dit, bah en fait, c'est simple. Pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible à cause de l'ordre du monde. Voilà.
Et elle l'accepte, cet ordre?
Non, c'est pas qu'on l'accepte, mais enfin, si vous voulez, en tant qu'individu tout seul, c'est très difficile de faire face à toutes les forces. Alors oui, on n'a pas vraiment, je pense, en ce cas-là, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça parle de ça, que c'est pas un problème de l'énergie intérieure, c'est un problème qui vient de la contrainte extérieure. Voilà.
Et d'ailleurs, le film ne joue absolument pas avec l'idée qu'il y aura un possible. Il n'est pas dans cette tension dramaturgique de que vont-elles faire, que vont-elles vivre, que va être le futur. Il est dans le, ouais, dans le pur présent du potentiel vécu, mais elles savent très bien que ce potentiel ne peut pas s'exprimer ailleurs, et on n'est pas du coup dans l'invention d'un destin qui serait différent, héroïque, ouais. Ni d'ailleurs pour ce couple, ni pour la peintre, qui n'est pas non plus, où il n'y a aucun héroïsme à créer, c'est non. Un métier, c'est un travail.
Mais c'est un autre thème, en fait, l'héroïsme. Vraiment, c'est un autre thème, je crois. Mais là, comme en fait, on voulait parler, enfin, Céline l'a dit, on voulait parler de l'histoire d'amour pour elle-même. Et en fait, pour parler de l'histoire d'amour pour elle-même et parler de cet amour-là, de deux femmes à cette époque-là, et puis même de manière générale, je crois qu'on n'a pas trop le choix que d'opter pour le suspens. Parce que sinon, en fait, tout le reste prend la place. Toute l'oppression prend la place et ça devient le discours de l'amour, alors qu'en fait, il y a un truc intérieur à l'amour.
Et c'est vrai que c'est un film d'amour.
Ah bah, c'est totalement un film d'amour. C'est le projet, hein. Un film qui veut en parler, qui veut en donner aussi.
Il y a dans le film cette scène où elle fait un premier tableau, en fait, d'elle d'abord, et puis ça va être un échec parce que Marianne l'a réalisé sans modèle, puisque donc Héloïse refuse de poser pour les tableaux. Les traits, les proportions du visage, tout est parfait, tout est nickel sur ce tableau, mais il lui manque quelque chose. C'est un portrait sans intériorité, un portrait sans vie, sans présence. Vous avez, vous, Céline Sciamma, toujours un souci formel dans la manière de réaliser vos films, de les penser? Ça répond aussi, j'imagine, à des conventions qu'on peut étudier quand on est jeune réalisateur. Comment faire pour que ces conventions-là, cette recherche stylistique aussi, n'écrase pas l'émotion, la présence?
Moi, je crois que la recherche stylistique ne sert que l'émotion. Moi, je ne cherche aucune recherche stylistique qui est détournée ou dégagée de la question de l'émotion ou de la question du trajet du spectateur. Et dans les émotions, l'émotion, c'est pas juste être ému, c'est pas juste être touché. L'émotion, c'est la frustration. L'émotion, c'est le délai. L'émotion, c'est la tristesse. L'émotion, c'est l'ennui. Il y a tout type d'émotions. Et moi, les films, je les conçois comme des manèges, hein. Et dans les manèges, il y a le côté aussi clac, 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 clac. Il y a un moment, wouh! on descend. Et tout ça, c'est des émotions. Et pour moi, justement, le côté genre stylistique, film graphique, mood board, j'en ai rien à faire.
C'est-à-dire, en fait, c'est intéressant de.
Et dès que vous êtes dès que vous êtes un cinéaste qui est pas un cinéaste du naturalisme, alors tout de suite, c'est comme si la recherche, comme si les films étaient des prétextes à des recherches formelles, mais pas du tout. Les recherches formelles sont et même dans leur radicalité, sont des ambitions d'impureté, d'hybridation, qui vont chercher l'émotion. L'émotion nouvelle, celle qu'il y a dans une colure, celle qu'il y a dans une scène qui est quelque chose et qui en devient une autre. Et donc c'est ça qu'on cherche. On cherche à créer la langue d'un film, on cherche à créer la langue entre les personnages, et surtout dans les films où il y a du dialogue amoureux d'ailleurs. Et puis d'un coup, les spectateurs se mettent à parler cette langue, d'un coup c'est la leur, et d'un coup... Alors, au mieux on leur crée des souvenirs... Enfin, au minimum, j'espère. Et puis, au mieux, on crée de la mémoire. Et ça, c'est ça, la stylistique.
Adèle Haenel.
Non, mais c'est intéressant parce que, justement, en fait, la dissociation du style et du fond, pour moi, c'est un truc qui est issu de la publicité, en fait. C'est vraiment un truc qui est... C'est-à-dire, finalement, si on peut remplacer n'importe quel fond par n'importe quelle forme, il y a cette espèce de dichotomie, elle est très publicitaire, je trouve. Et du coup, pour moi, le propos du film, il est, comment dire, totalement trans propos, trans forme. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le truc-là qui fait le cinéma, je trouve.
Tous ces films, leur secret, leur beauté, et dont le cinéma a tant besoin.
France Culture.
Ça fait 60 ans déjà que nous avons rendez-vous chaque année au mois de mai avec le cinéma du monde.
La grande table. Action. Olivia Gesbert.
Pourquoi vous vouliez faire figurer dans ce film la scène de l'avortement, qui est extrêmement forte? Déjà parce qu'on a souvent l'habitude de voir à l'écran des avortements saignants, douloureux, de montrer un avortement avec une faiseuse d'ange qui travaille et pendant ce temps, un enfant, un petit, un bébé qui tient la main de la jeune fille qui se fait retirer son enfant, avorter.
Oui, oui. C'était ça l'idée de la scène, oui. C'était...
C'est très culotté quand même.
Oui, je crois que c'est assez synthétique du film en réalité. C'est-à-dire, je crois que le film a l'ambition d'être dans un pur présent et puis en même temps de consoler. Il veut faire battre le cœur très fort et puis il veut consoler aussi. Et que cette scène, elle fait ça. C'est-à-dire, c'est une scène d'avortement qui raconte forcément la violence de ce moment, même si la scène n'est pas violente. C'est l'idée de la scène qui est violente, mais il y a quand même la consolation. Après, je pense que c'est une scène qui peut être vécue très différemment par les femmes, selon leur vécu de femmes qui ont leur rapport à les nullipares, comme on dit, le vivent pas du tout comme les femmes qui ont des enfants, par exemple, je pense.
Vous filmez ces deux femmes avec énormément de douceur, de délicatesse, comme si ce moment qu'elles vivaient était aussi extrêmement fragile, la naissance de ce désir, la manière dont il va à la fois se construire et vivre. Adèle Haenel, on sait que vous êtes, vous, ici, à Cannes, pour trois films. Alors, celui de Céline Sciamma, en ce moment, présenté à la sélection officielle. Le Dain, aussi, de Quentin Dupieux. Les héros ne meurent jamais, de Aude Léa Rapin. Voilà, trois registres encore différents dans lesquels on peut vous voir. Juste sur cette question des registres, tout le monde souligne, tous les réalisateurs avec lesquels vous avez travaillé, de Campillo aux Frères Dardenne, à Salvadori, à Bonello, votre singularité, le fait que vous excellez dans tous les registres. Quel est celui, vous, que vous affectionnez le plus, celui dans lequel vous vous sentez mieux aujourd'hui?
Bah déjà, merci. Enfin, je suis contente que les gens avec qui je travaille m'aiment bien, parce que moi, je les aime bien aussi. Mais je sais pas trop, parce que je fais pas une... Enfin, vous voyez, je suis pas très dans l'accumulation des choses, mais plus dans la transformation. Du coup, je crois que ce qui me caractérise, c'est plutôt la recherche. Et si on doit donner une orientation à cette recherche, c'est la jubilation, tout simplement. Il y a pas. Et après, évidemment, on peut plonger dans les exigences techniques qui sont différentes en fonction des films. Mais bon, ça, c'est quelque part. Je dirais pas que c'est secondaire, mais c'est pas le principal. Je crois que le truc vraiment qui moi me guide dans mes choix et me guide les choix que je fais au cinéma, c'est juste premièrement la croyance dans le film que je vois et cette idée que ça va me faire vraiment vivre, quoi. Vraiment, c'est juste ça, en fait, c'est ce mélange là puis voilà, sur le portrait de la jeune fille en feu, ben voilà, c'est pour moi, c'est un film absolument unique dans je sais pas, que je peux pas mettre dans un continuum, quoi. C'est genre, pour moi, c'est, j'ai fait l'impression d'avoir fait, enfin, je sais pas, d'avoir participé à un film qui est majeur dans ma vie. Voilà, simplement, en fait.
Et c'est pas la suite pour vous, quelque part, de Naissance,
Si, mais là, on parle de la collaboration avec Céline. Ouais. Donc, évidemment, on a, c'est pas la
et
suite.
12 ans après, non, pas la suite en termes d'histoire, mais 12 ans après, il y avait
c'est
quand même.
Deux. Non, mais, non, non, pardon. Oui, non, si, c'est pour ça aussi que ce film est particulièrement important, parce que pour moi, il, et là, on l'a vécu aujourd'hui avec l'accueil qui était vraiment très chaleureux. J'ai l'impression que c'est non seulement notre histoire, toutes les deux, de collaboration artistique et sentimentale, mais aussi qui embrasse un mouvement plus large, politique, qui boue dans le cinéma et dans le monde en ce moment. Des femmes qui... Et je trouve que c'est ça qu'on a senti dans l'accueil. Un truc qui, à la fois, qui est une reconnaissance artistique du film, mais aussi un sens du collectif politique. C'est ça que moi j'avais senti et que je trouve super beau, qui dépasse juste la satisfaction que je peux avoir à être dans un bon film. C'est, je me dis, en fait, nous sommes et large en fait. Et ça, c'est ça qui est super beau, je crois. Entre autres, dans comment les choses se sont passées aujourd'hui.
Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain. Vous serez libre. Être libre, c'est être seule. Vous ne croyez pas? Je vous dirai demain. Je vais aller à la messe. Vous voulez communier?
Je veux entendre de la musique.
L'orgue, c'est beau, mais c'est la musique des morts.
C'est la seule que je connaisse.
Vous n'avez jamais entendu un orchestre?
Non. Oui. Racontez-moi.
Céline Sciamma. En ce moment, à Cannes, un peu comme chaque année, il y a des réalisateurs, des compositeurs qui aimeraient une plus grande reconnaissance de la musique dans le festival, dans le palmarès, en inventant pourquoi pas un prix, une palme pour les compositeurs de musique de film. Alors vous avez pris le parti pris inverse pour ce film-là,
oui.
Pas de musique.
Oui.
Pourquoi ?
Dans l'optique de la reconstitution. C'est-à-dire, parce que reconstituer, c'est reconstituer des états aussi. C'est, le film, il a un rapport à l'art très fort, comment l'art nous console, comment l'art porte l'empreinte des gens qui nous ont accompagnés ou qui nous ont donné envie d'être curieux. Et le rapport à la disponibilité de l'art, à la disponibilité des livres, des musiques, tous ces objets consolatoires tellement déterminants dans nos vies, où nous, en plus, on a cette chance, aujourd'hui, c'est une chance d'avoir accès comme ça à toutes sortes de choses très rapidement. Je voulais reconstituer cet état-là, cet état de frustration, cet état et d'être du coup cet état d'importance absolue de l'irruption d'une musique, d'une chanson, d'un livre qui traîne. Et c'était pour mettre les spectateurs, voilà, la reconstitution c'est ça, c'est les mettre dans un état de disponibilité aussi à l'irruption des choses qui comptent pour les personnages et qui d'un coup comptent très fort pour eux aussi. Et moi, j'adore la musique au cinéma, mais vraiment, j'avais envie qu'il y ait, c'était pas par souci j'ai pas envies radicales si elles sont pas motivées par quelque chose qui va se libérer à un moment, qui va être plus généreux, quoi. Donc, cette pensée de la musique, elle est totalement liée à ce projet, mais globalement, j'ai fait un film sur 200 sans musique. Et c'est tellement frustrant que c'est cool d'en faire avec de la musique après. Donc oui, moi évidemment, la musique au cinéma, c'est
mais aussi
souvent d'un penser d'ailleurs.
Bon, on écoute vraiment les choses du coup.
Merci beaucoup.
À toutes. Merci.
Merci.